Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
Bonjour à tous, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats mais aussi d'opinions avec les auditeurs. Et l'info aujourd'hui, c'est avec Agnès Bonfillon jusqu'à 13h. Bonjour Agnès.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. À la une, pas question de capituler. La ville de Mariupol est toujours assiégée. Josep Borrell parle de crimes de guerre majeurs. Les Ukrainiens refusent de se rendre. Raffinerie bloquée, barrage filtrant, encore plusieurs opérations aujourd'hui pour dénoncer la hausse du prix des carburants. Et puis en Belgique, deux jeunes sont toujours entendus par la police. Ce matin, ils étaient dans la voiture qui a foncé sur la foule lors d'un carnaval. 6 personnes sont mortes. La piste terroriste est écartée.
Nos dossiers, nos focus du jour, nous reviendrons sur ce meurtre en plein Paris. Samedi matin, l'ancien international du rugby Federico Aramburu a été tué par balle. Et puis ça ne s'arrange pas entre les Français et la classe politique. Selon notre sondage BVA pour RTL Orange, la prochaine présidentielle pourrait enregistrer une abstention record.
Et justement, la question du jour sur RTL.fr concerne la présidentielle. Avez-vous regardé les programmes des candidats ? Vous répondez oui à 30%, non à 69%. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Agnès, bonjour.
Mais qu'est-ce qu'on vous aime en ce moment
Cette semaine-là, ça va aller beaucoup mieux avec le printemps qui s'installe. Alors c'est déjà le cas en ce moment dans la moitié nord, c'est pas tout à fait vrai dans le sud. On a encore des nuages et quelques pluies en ce moment près de l'Atlantique, entre le Massif central et Languedoc-Roussillon. Mais là aussi, ça ira de mieux en mieux, sauf justement tout près des Pyrénées, dans le Roussillon. Là, on commence à avoir un ciel nuageux avec encore quelques pluies, quelques flocons également sur les Pyrénées. Puis attention au vent qui va continuer à souffler fort près de la Méditerranée. Vent d'autant également sur la région toulousaine, où on frôlera encore les 100 km/h cet après-midi. Tout ça avec des températures en hausse. Hein. Nous serons entre 13 et 15 degrés près de la Méditerranée. C'est là où, pour une fois, ça sera le moins doux. Mais 17 à 19 degrés ailleurs.
Merci beaucoup, Louis. À tout à l'heure.
RTL Midi.
L'armée russe étend encore ses bombardements pour la première fois. Les faubourgs d'Odessa, dans le sud-ouest du pays, ont été pris pour cible. Des immeubles d'habitation ont été fortement endommagés, mais il n'y aurait pas de victimes, selon les autorités locales. Pour Kiev, les frappes, ce n'est pas la première fois, mais en revanche, jamais il n'y avait eu autant de victimes. Ce matin, c'est un centre commercial de la capitale qui a été visé. 6 personnes sont mortes. Vous êtes notre envoyée spéciale, Émilie Beaujard. Vous avez pu vous rendre sur place?
Oui, tout le bâtiment a été soufflé. Il s'agit d'un vaste centre commercial avec un supermarché, des enseignes de bricolage et d'habillement. Il n'en reste plus rien. Tatiana est venue voir les dégâts. Elle travaille dans ce centre depuis 2 ans.
Ce bâtiment, c'est un peu ma deuxième maison. Ce n'est pas un site militaire et moi, je ne suis pas un soldat. Je suis en colère, comme tout le monde. Les pleurs et les regrets, ce sera pour après la guerre. Là, on est juste en colère.
Les services de secours lui demandent de reculer. Les immeubles autour ont été évacués par crainte d'explosion de bonbonnes de gaz ou de restes de missiles. Maria habite dans le quartier.
C'est terrible. Et la situation ne fait qu'empirer ici. Je ne sais pas ce que nous réservent les prochains jours.
Cette frappe, encore une fois dans le nord de Kiev, s'apparente à une volonté de détruire la deuxième ligne de défense de la capitale, installée dans ce quartier de Podil, touchée plusieurs fois ces derniers jours.
Émilie Beaujard, l'envoyée spéciale de RTL en Ukraine.
Et pendant ce temps, la situation à Mariupol est toujours aussi dramatique.
Cette ville, martyre sur la mer d'Azov, est assaillie de toutes parts par les troupes russes. Les civils, encore à l'intérieur, n'ont plus de quoi manger ni boire. Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, n'a pas choisi ces mots au hasard ce matin.
Ce qui se passe à Mariupol est un crime de guerre majeur. Des bombardements à l'aveugle dévastent la ville et tuent tout le monde. C'est horrible. Nous devons fermement condamner ce crime.
Et malgré cette situation dramatique, Sophie Jousselin, les Ukrainiens refusent de se rendre.
Oui, puisqu'ils ont rejeté l'ultimatum de la Russie exigeant la capitulation de la ville. Moscou avait donné jusqu'à 5 heures ce matin aux autorités ukrainiennes pour déposer les armes. Nous demandons à Kiev d'être raisonnable, de ne pas obliger les militants à se sacrifier et à devenir des martyrs de Mariupol, avait déclaré Mikhail Mizintsev, le directeur du Centre national russe de gestion de la défense. Il n'est pas question de parler de reddition, a rétorqué de son côté la vice-première ministre ukrainienne. Pourtant, sur place, Donbass, la situation est toujours catastrophique et c'est le grand flou concernant les couloirs humanitaires. Selon Moscou, les deux parties se seraient mises d'accord pour ouvrir un corridor afin que les habitants de Mariupol puissent quitter la ville vers l'ouest. Ce qu'annonçait Irina Verechuk sur Instagram, la vice-première ministre ukrainienne, y accuse les troupes russes de bombarder les lieux d'évacuation. Près de 350 000 personnes sont encore bloquées à Mariupol et selon les autorités locales, les soldats russes auraient transporté de force un millier d'habitants vers la Russie.
Merci beaucoup Sophie Jousselin pour ce point sur Mariupol. En Chine, cela faisait longtemps qu'un tel drame aérien ne s'était produit. Un Boeing 737 s'est écrasé dans le sud du pays. 132 personnes se trouvaient à bord.
Depuis très tôt ce matin, une raffinerie Total Energy est bloquée au sud de Lyon.
Ah oui, ça se passe à Feyzin, très exactement. Une cinquantaine de professionnels demandent des solutions d'urgence face à la flambée des prix du carburant. Bonjour Frédéric Perruche.
Bonjour.
Vous êtes sur place pour RTL, qu'ils soient agriculteurs ou dans les transports, forcément, ces manifestants sont touchés de plein fouet.
Ah oui, l'image de Manuel, l'agriculteur en Savoie, qui est venu crier sa colère, dénoncer ces augmentations insupportables des matières premières et du carburant.
Alors moi, j'ai demandé de me faire livrer du GNR il y a une semaine. Il y a une semaine, on me le proposait à 1,98€ TTC à la ferme. C'est trop énorme. Il y a un an, j'achetais l'orge à 130, 140 euros la tonne. Là, en ce moment, elle a doublé, elle est à 270. Le maïs, c'est pareil. Le blé, c'est pareil. On n'y arrivera pas, quoi. En France, il y a beaucoup de fermes qui sont déjà au bord de la faillite.
Daniel, transporteur indépendant dans l'Isère, bloque l'entrée du dépôt avec son camion, étranglé lui aussi par la flambée des prix du gasoil.
Tous les jours, on mange des rangs, on ne vit pas de notre travail, on ne prend plus de salaire, on ne prend plus rien. Ah ben non, à ce prix-là, il reste 3 mois de trésorerie et puis on va fermer. Ben oui, c'est la survie. La survie de l'entreprise et la survie de la famille qui va avec, parce que nous, demain, si on arrête, on a droit à rien. À rien.
Une cinquantaine de manifestants et leurs poids lourds, tracteurs, stationnent calmement pour l'instant au rond-point qui mène au dépôt de Feyzin, le temps qu'il faudra, assure-t-il.
Frédéric Perruche, en direct pour RTL. La grogne depuis ce matin, c'est aussi en Normandie et en Bretagne où plusieurs barrages filtrants ont été mis en place. Même les pêcheurs qui semblaient soulagés par la baisse de 35 centimes par litre de gasoil en fin de semaine dernière replongent dans le doute ce matin. Vous avez pu le constater avec les marins de Saint-Jean-de-Luz, Philippe de Maria.
Baguette de pain sous le bras, Nicolas grimpe sur le Louena, son bateau. Il sait à peu près ce qu'il va pêcher ce matin.
Dorade, maigre, un petit peu ce qui aurait bien voulu se prendre dans les filets.
Il part en mer malgré les prix du diesel marin.
Là, le plein, aux alentours de 700-800 euros, jusqu'à 5 pleins dans le mois. On prélève d'abord le gasoil et puis après ce qui reste, on le partage. Ouais. À l'arrivée, il en manque quoi.
Alors bien sûr, il y a les aides de l'État, 35 centimes par litre.
On verra quand ça tombera. Visiblement, il va falloir qu'on fasse l'avance et on sera remboursé après, donc je suis sceptique.
Le poisson pêché par Nicolas est directement vendu à la criée de Saint-Jean. La hausse du gasoil a encore peu d'impact sur les prix du poisson. Christophe Duguay.
Ce matin, on a du maquereau, on a un peu de sole, on a de la lotte. Pour le moment, non, les prix n'ont pas souffert. Les prix se maintiennent, on va dire, on n'est pas déphasé. C'est bien pour tout le monde, ça veut dire qu'il y a la demande. Les pêcheurs sont contents et nous aussi, forcément.
La criée de Saint-Jean-de-Luz écoule ici 8400 tonnes de poissons tous les ans.
Le reportage de Philippe de Maria à Saint-Jean-de-Luz pour RTL.
Le bilan est toujours de 6 morts lors d'un carnaval en Belgique.
Les victimes ont été percutées par une voiture. Il y a également une dizaine de blessés graves. Les deux jeunes qui se trouvaient à bord du véhicule, eux, sont auditionnés. La piste terroriste est écartée. Comme dans de nombreuses communes en Belgique, hier matin, démarrait une journée de fête. Et cela s'est transformé en carnage à Strépy-Braquenny, très exactement, à côté de la Louvière. Franck Hanson, vous êtes sur place pour RTL. Forcément, 24 heures après le drame, c'est le choc.
Oui, atmosphère toujours lourde ici sur les lieux du drame. Dans une petite rue résidentielle du village, des fleurs blanches, des foulards de carnaval ont été déposés là où cette bande folklorique de Gilles a été fauchée hier à l'aube. Certains sur plusieurs centaines de mètres, des habitants de Braquenny qui connaissaient ces victimes viennent se recueillir.
Mes frères, qui sont malheureusement décédés, que je connaissais, ils étaient là vraiment pour faire la fête. Et malheureusement, ça s'est terminé de manière tragique. L'atmosphère est très lourde. Il y a vraiment une immense tristesse qui nous entoure. Quoi.
Cette voiture qui est arrivée, qui a fauché tout le monde.
Comme des quilles.
C'est inexplicable.
Et toujours beaucoup de questions dans cette région de la Louvière. C'était le premier carnaval après la période Covid. Des traditions toujours attendues. Et au niveau sécurité, tout était encadré, précise Virginie Pilette de l'Amicale des sociétés carnavalesques.
C'est signalé qu'il y a une fête locale, que les sociétés démarrent
très tôt le matin. Impossible de ne pas les voir. Un groupe de 150 personnes qui se déplacent sur le chemin, qui plus est avec de la batterie, de la musique. J'espère qu'ils n'ont pas fait ça délibérément et que la tête leur a tourné pour une raison ou une autre, mais ça n'excuse en rien l'incident.
Et un hommage sera rendu demain après-midi dans la commune, mais sans tenue de fête. Pas le cœur pour l'instant à réembaucher, à réendosser ses costumes.
Concernant l'enquête, Franck, en sait-on un peu plus sur les circonstances du drame ?
Eh bien écoutez, ces deux cousins trentenaires mis en cause ont été rapidement interpellés. Ils sont toujours interrogés par les enquêteurs. Leur motivation reste pour l'instant assez floue. On sait qu'ils revenaient de discothèques sous l'emprise de l'alcool. D'autres résultats d'analyse sont toujours attendus. Des experts ont été dépêchés pour vérifier la BMW qui a percuté toutes ses victimes. Le système de freinage notamment doit être analysé. L'un des deux avait eu une suspension de permis pour vitesse excessive. Ils doivent être présentés cet après-midi à un juge d'instruction dans la soirée.
Franck Hanson en direct de Belgique pour RTL.
Et vous l'avez peut-être entendu ce matin, la lauréate du Grand Prix RTL Lire Magazine s'appelle Hélène Gestern.
Oui, une histoire de nombre cette année, Pascal. Alors que nous fêtons les 30 ans de ce prix, le roman récompensé s'intitule 555. 555, c'est le nombre de sonates composées par Scarlatti au XVIIIe siècle, un compositeur italien auquel l'auteur voue une véritable passion. Écoutez.
J'ai découvert Scarlatti quand j'avais 18 ans et j'aurai 51 ans dans quelques jours. Donc c'est un amour ancien et ça a été le choc esthétique de ma vie. Je ne m'en suis jamais remise. Ça a été la plus grande émotion artistique que j'ai éprouvée de ma vie. Et elle dure encore. Elle n'est pas éteinte. Elle s'est métamorphosée, mais elle n'est pas éteinte.
Vous jouez du Scarlatti ou pas ?
Je suis illettrée de la musique. Je ne sais pas jouer d'un instrument. Je ne sais même pas lire une partition. La musique, la seule chose que je sois capable de faire, c'est de l'aimer.
Voilà, ça c'est du Scarlatti. On a également entendu la voix de Philippe Labro qui était là ce matin pour annoncer le nom du lauréat, en l'occurrence la lauréate cette année, Hélène Gestern, pour son roman 555.
Dans une seconde, Thomas Proutot est déjà là et nous allons revenir avec lui sur ce meurtre en plein Paris samedi matin. L'ancien international du rugby, Federico Aramburu, a été tué par balle. A tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi, avec Agnès Bonfillon et Pascal Praud.
C'était un ami, j'avais réveillonné chez lui le 31, voilà, c'était un ami assez proche avec qui j'avais partagé de bons moments, voilà, malheureusement, il est tombé dans une situation assez incroyable qu'on a encore du mal à croire et c'est triste et qu'on a une grosse pensée pour lui et pour évidemment Maria et ses enfants.
Lui aussi était un international de rugby. Olivier Magne a été, il le disait, un très grand ami de Federico Aramburu, tué par balle samedi matin. Nous voulions revenir sur ce meurtre en plein cœur de Paris. Une femme a été interpellée. En revanche, deux autres suspects sont toujours introuvables. Avant d'en parler, revenons sur les faits avec vous. Thomas Proutot, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes samedi, au petit matin, dans une rue festive du 6e arrondissement de Paris.
Oui, à deux pas de la rue Princesse, où s'alignent des bars de nuit, prisés notamment des supporters de rugby. Des centaines de clients s'y massent chaque veille de week-end. Et vendredi soir, ils sont encore plus nombreux à la veille du match France Angleterre. Samedi à l'aube, les derniers fêtards finissent leur nuit à la terrasse du café Le Mabillon. Parmi eux, Federico Aramburu et des amis. Vers 6h15, une altercation éclate avec un autre groupe pour une raison qui reste à établir. Le rugbyman est pris dans la mêlée. Les videurs doivent alors séparer les protagonistes.
A priori, Thomas, tout commence donc par une simple bagarre.
Absolument. D'après les premiers éléments de l'enquête, les deux groupes ne se connaissaient pas avant de s'affronter sur cette terrasse. L'hypothèse de départ, c'est en effet une bagarre pour un motif futile à l'issue de cette rixe. Et on parle au conditionnel parce qu'évidemment les investigations sont en cours, il faut rester prudent. Le rugbyman argentin s'éloigne alors de la terrasse du Mabillon et remonte un boulevard, mais plusieurs personnes qui étaient sur la terrasse ne veulent pas en rester là. Une voiture de type Jeep militaire rattrape Federico Aramburu. Des coups de feu sont tirés a priori d'abord depuis la Jeep, puis un homme descend du véhicule et va tirer à bout portant sur le rugbyman argentin avant de remonter dans la voiture et de s'enfuir. Scène de violence hallucinante en plein Paris. Le sportif meurt de ses blessures peu de temps après.
Parmi les trois suspects identifiés, Thomas, l'un est déjà bien connu des services de police, un militant d'extrême droite. déjà poursuivi pour des affaires de violence.
Absolument, il s'agit d'un ancien membre du GUD, vous savez, le syndicat étudiant d'extrême droite, aujourd'hui dissous mais coutumier des actions violentes. C'est d'ailleurs un hasard du calendrier, mais quatre de ses sympathisants sont jugés aux assises à Nantes à partir d'aujourd'hui pour une agression à coups de barre de fer sur des militants d'extrême gauche, c'était en 2017. Le suspect dont on parle, lui, a 27 ans, il est bien connu de la justice, vous le disiez. Il devait comparaître cet automne pour des actes de torture et d'humiliation sur un membre de son propre syndicat, mais l'audience a été renvoyée à cet été pour cause de Covid. Plusieurs sources policières qu'il fait partie des principaux suspects. Selon nos informations, ce militant d'extrême droite est par ailleurs connu des services de renseignement. Quel est son lien avec l'arme utilisée pour l'assassinat de Federico Aramburu? C'est une des questions qui se posent.
Alors évidemment, l'enquête est en cours, Thomas, mais est-ce que l'on sait si les deux suspects sont en fuite, s'ils se cachent?
Alors, vous le disiez, une femme de 24 ans est en garde à vue depuis samedi après-midi. Il s'agit de la conductrice présumée de la Jeep qui a pris en chasse le rugbyman argentin avant de quitter les lieux avec les assassins à bord. Les deux autres suspects n'ont pas encore été interpellés aux dernières nouvelles. Les policiers de la brigade criminelle sont à leur trousse et mettent évidemment tout en œuvre pour loger tout le monde, tireurs et complices, ce qui explique peut-être pourquoi ça prend un peu de temps. L'avocat de la famille du rugbyman a dénoncé hier soir dans un communiqué un crime odieux qui laisse les proches dans une douleur indicible.
Et la conductrice qui est en garde à vue aujourd'hui, par définition juridique, je ne sais pas laquelle d'ailleurs, mais elle est complice.
Elle est complice d'assassinat, évidemment.
Merci Thomas
Merci Proutot. Thomas Proutot, merci pour ces renseignements aussi précis. Dans une seconde, on va parler des Français et la classe politique. Selon notre sondage BVA pour RTL Orange, la prochaine présidentielle pourrait enregistrer une abstention record. A tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Agnès Bonfillon et Pascal Pro.
Vous irez voter, vous, Sylvie?
Bah oui, je vais voter. Mais je sais pas qui. Ils me dégoûtent tous. En fait, moi, je trouve qu'ils se foutent un peu de nous, quoi.
Dans trois semaines, nous connaîtrons les deux candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle. Nous connaîtrons également le taux d'abstention qui s'annonce record selon notre nouveau sondage Orange BVA pour RTL. 29% des personnes interrogées ne sont pas certaines d'aller voter. C'est encore plus marqué chez les jeunes, près d'un sur deux. Si l'on ajoute les 7% de non-inscrits, ça commence à faire beaucoup. Avec nous pour en parler, Anne Muxel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche au CEVIPOF, auteur du livre « Les Français sur le fil de l'engagement » aux éditions de l'Aube. Avec nous également Benjamin Sportouche. Bonjour Benjamin.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Chef du service politique de RTL. Je me tourne d'abord vers vous, Anne Muxel. Arrive-t-on à savoir pourquoi cette élection pourrait être la plus boudée de la Ve République ?
Oui, c'est en effet ce que les indicateurs montrent. Beaucoup de Français qui ne sont pas certains d'aller voter. Il est possible que cette abstention soit forte. Alors, des raisons à cela. Tout d'abord, une élection dont on annonce quasiment l'issue déjà, donc qui ne mobilise pas parce qu'il n'y aurait pas de compétition électorale. Par ailleurs, le fait que, eh bien, il y a des préoccupations aujourd'hui des Français, bon, d'abord l'inquiétude de la guerre en Ukraine qui est intervenue dans le cours de cette campagne, le fait aussi que nous sommes à la sortie et peut-être éventuellement dans la reprise de la pandémie de Covid, qui fait aussi que les Français, eh bien, sont pris par d'autres préoccupations, la préoccupation de la crise sanitaire, la préoccupation de la guerre, et puis enfin le fait que la crise de la représentation politique qui sévit dans notre pays maintenant depuis un certain temps et qui fait que, et on vient de l'entendre dans ce reportage, beaucoup de Français ne se retrouvent pas dans l'offre électorale qui est proposée, sont mécontents, sont défiants à l'égard de la classe politique, et bien tout cela aboutit à ces ingrédients qui peuvent déboucher effectivement sur une panne de participation pour cette élection.
Benjamin Sportouche, je me tourne vers vous. Est-ce que les politiques, les candidats sont conscients de la situation ?
Ben, ils sont très inquiets. Et ils sont surtout très inquiets chez Marine Le Pen et la France Insoumise, hein, parce que, on le voit dans notre sondage aussi, ce sont ces deux électorats-là qui risquent de se mobilisés moins que les autres. Donc on le voit très nettement et ça se traduit d'ailleurs dans la manière de faire campagne. Vous voyez par exemple Marine Le Pen demain eh bien, devait être participée au grand oral organisé par les chasseurs. Eh bien, elle sera à Hénin-Beaumont dans son fief comme elle l'a été ce week-end et
elle
on l'a
s'adapte.
Suivi. Oui, elle s'adapte parce que c'est ça la clé. Elle a été traumatisée, Marine Le Pen, par les régionales. Vous savez qu'il y avait eu une abstention très importante de son camp et ça lui avait été largement défavorable. C'est exactement la même chose aussi chez les Insoumis. Et vous avez vu la mobilisation très forte qu'a tenté de faire naître ce week-end Jean-Luc Mélenchon à Paris pour montrer en effet qu'il fallait que maintenant et tout de suite, les gens se décident à aller voter. Et enfin, pas que chez eux, il y a aussi eh bien, d'une inquiétude de mobilisation chez les macronistes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très hauts dans les sondages et ils se disent que si on estime, comme le sondage le montre, que l'élection est gagnée, il y a une démobilisation. Mais bien évidemment, vu le score, c'est moins dangereux pour lui pour passer au second tour.
Oui, mais il y a une inquiétude supérieure à celle que vous dites, si vous me permettez, Benjamin. C'est une inquiétude pour la démocratie, pour la démocratie représentative. La véritable inquiétude, elle est peut-être là. Si les gens ne se déplacent pas, ou ne se déplacent plus, s'ils n'ont pas confiance en cette démocratie représentative, qu'est-ce qu'on va faire ?
Ben écoutez, en tous les cas, ça c'est de la responsabilité de tout un chacun et des électeurs. C'est sûr que bien évidemment, le bulletin de vote reste le meilleur moyen d'expression aujourd'hui dans notre démocratie. Et on le voit bien.
Mais alors, oui, mais vous dites 70... ça, mais non, justement. Certains trouvent que non.
Si,
c'est bien ça
disent,
le problème.
Non, quand vous regardez,
certains ne croient plus. La dame tout à l'heure qu'on entendait, elle dit, la première auditrice, ouais. Elle dit, moi j'y crois plus. Ils nous prennent, bon, on entend ça. Et la difficulté pour les journalistes que nous sommes, c'est de ne pas tomber dans le populisme en rapportant cela mot pour mot, en le mettant un peu en perspective. Mais si les gens n'ont plus confiance et ne croient plus en ceux qui les dirigent, la société française va être sur de la nitroglycérine.
Oui, il y a depuis longtemps une forme de désenchantement, pas uniquement de l'autorité politique, d'ailleurs de toutes les autorités. Mais là où on pourrait progresser peut-être, c'est vrai sur les modalités de vote. Je parle sur le contrôle de Anne Muxel, mais on le voit dans notre sondage. Par exemple, il y a 40% des Français qui voudraient qu'on change les modalités de vote. Par exemple, le vote à distance, le vote électronique. Oui, là-dessus, on peut progresser, parce que c'est dans notre temps. Aujourd'hui, on fait tout sur un ordinateur, sur un téléphone. Pourquoi ? Surtout pour les jeunes, ce ne serait pas une manière de les mobiliser.
Il y a aussi peut-être un peu de proportionnel, pourquoi pas.
Bien évidemment, vous avez raison, et ça la représentation, je pense que Emmanuel Macron l'a remis sur le tapis avec une proportionnelle intégrale. Il est allé au-delà d'une proposition initiale de François Bayrou. Très franchement, ça aurait certainement peut-être dynamisé la participation.
Anne Muxel, pour réenchanter cette relation entre les politiques et les Français, quelle est la solution ?
Alors je ne sais pas si j'utiliserai le mot réenchanter, mais déjà redonner confiance, recrédibiliser et puis surtout rappeler qu'effectivement, s'il n'y a pas d'organisation de la représentation politique, eh bien l'un des deux piliers de la démocratie, qui est effectivement l'organisation par le vote de cette représentation politique, ne tient plus. Donc il y a là vraiment quelque chose à faire et tout ce que l'on peut faire pour faciliter l'accès au vote, je crois que c'est effectivement très important. Je pense que des mesures aussi telles que l'abaissement du droit de vote à 16 ans, malgré tout, eh bien, c'est aussi un signal envoyé à la jeunesse pour la responsabiliser, la mobiliser le plus tôt possible dans
là, il y a discussion, si vous me permettez.
Je crois, oui, bien sûr, il y a discussion.
C'est bien qu'on fasse voter les jeunes à 16 ans, mais je ne suis pas sûr que ça soit ça l'essentiel.
La question m'a été posée, donc je réponds. Voilà quelques clés, en tout cas, de vous pour remobiliser les jeunes, y compris les jeunes générations, pour leur redonner le sens et la nécessité de la démocratie représentative. Car sur le volet de la démocratie directe, de la protestation qui s'exprime dans la rue, eh bien là, effectivement, les jeunes générations sont très familiers avec ce type de participation politique. Il y a vraiment urgence à leur apprendre la nécessité pour que vive la démocratie telle que l'on l'entend, eh bien à être actif dans le cadre de la démocratie
représentative. Et bien merci Anne Muxel, et je rappelle que vous êtes directrice de recherche au CVPOF. Moi je pense qu'on pourrait mettre le grand jury RTL que vous animez tous les jours pendant 2 heures pour redonner
Vous laissez votre place, Pascal.
Voilà.
Et puis votons les samedis et les dimanches. Moi je suis d'accord avec vous. Le grand
grand jury tous les jours. Et puis on vote le samedi et le dimanche. Pourquoi sur une seule journée, après tout? Eh bien oui, on peut oublier
une journée. Enfin, tout ça, c'est des gadgets. Ça fait 50 ans qu'on vote le dimanche. Il y avait 85%
de gens. Il y aura 70% de participation.
Non, le grand jury tous les jours, ça, c'est
d'accord. Allez, bon, on vote
tous les jours pendant 2-3 heures.
On est tous d'accord pour ça.
Nous sommes d'accord. Bon, il est 12h59. On est quasiment en retard, mais bon, c'est tous les jours. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
RTL. 13h01.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Avant la programmation d'un grand jury quotidien, il a quand même resté avec nous aujourd'hui pour une première partie des auditeurs, notre ami Benjamin Sportouche, et il va pouvoir dialoguer avec les auditeurs, comme Laurent qui nous parlera de l'abstention. Bonjour Laurent, est-ce que vous allez voter ?
Bonjour, non, j'irai pas voter. Non.
Mais pourquoi ?
Alors, laissez-moi développer.
Vous allez répondre après le flash. D'accord, après le flash, okay. Et après le rappel des titres. Moi, je vais partir en campagne pour que les gens votent quand même.
Oui, il faut.
Voilà, même voter blanc. Allez-y Agnès.
En Ukraine, pour la première fois, les faubourgs d'Odessa, dans le sud-ouest du pays, ont été pris pour cible ce matin. Des immeubles d'habitation ont été fortement endommagés, mais il n'y aurait pas de victimes, selon les autorités locales. Parmi les conséquences directes de cette guerre, la flambée des prix du carburant. Depuis ce matin, plusieurs barrages filtrant en Normandie et en Bretagne. Le Grand Prix RTL Lire a été remis ce matin à Hélène Gestern pour son roman 555. Notre prix littéraire fête ses 30 ans cette année. À cette occasion, on vous propose d'entendre différents lauréats. Souvenez-vous, en 1998, c'était un certain Jean-Christophe Grangier qui était récompensé pour Les Rivières Pourpres.
Aujourd'hui, bon, évidemment, l'eau a coulé sous les ponts, mais je suis très fier d'avoir reçu ce prix. D'ailleurs, je tiens à dire que c'est le seul que j'ai reçu dans ma carrière. Donc, il faut quand même le signaler. Donc, j'y tiens énormément. Et c'est un prix du public. Et ça me plaît beaucoup, ça me séduit beaucoup. D'une certaine façon, je trouve que c'est un prix qui me ressemble. Moi, j'ai toujours été proche du public, j'ai toujours cherché à le satisfaire. J'ai toujours été totalement en dehors du petit milieu parisiano-germano-pratin.
Jean-Christophe Grangier avec Bernard Lehu. La météo, Louis Baudin, c'est presque un sans faute pour cette entame de printemps.
Presque. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore quelques nuages dans le sud quand même.
Bravo.
Du côté du Languedoc aussi, sur les Pyrénées, avec quelques pluies. Des averses également dans le Languedoc encore tout au long de la journée. Et puis surtout du vent, hein. Vent fort près de la Méditerranée. Vent fort également entre Carcassonne et Toulouse. C'est du vent d'autant jusqu'à 100 km/h.
Le vent d'autant.
D'autant.
Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est
le nom. Quoi,
je sais, mais ça, je suis toujours. Alors, il est dans le sud-ouest plutôt.
Il est dans le sud-ouest, exactement, entre Carcassonne et Toulouse.
D'A-U-N-T-A-N.
Exactement.
Le vent d'autant.
Voilà, 100 km/h aujourd'hui.
Catherine Laborde en parlait souvent du vent d'autant.
Oui, parce qu'elle était du sud-ouest, elle.
Bien sûr.
Elle est du sud-ouest, d'ailleurs.
Il va faire beau ou pas, Louis?
C'est trop loin encore.
C'est Benjamin Sportouche qui demande.
Des situations pour cet après-midi.
Non, mais c'est intéressant.
Hormis ces régions du sud-ouest, on aura donc du soleil et la douceur qui s'installe. 17 à 19 degrés cet après-midi. Un vrai air de printemps, 13 à 15 degrés près de la Méditerranée. Demain, c'est encore mieux parce que fini l'épisode pluvieux près de la Méditerranée. On aura encore un peu de vent d'autant quand même, jusqu'à 80 km/h. Toujours, oui, demain.
Le même.
Et puis à partir de mercredi, ben là, c'est parti pour du grand soleil, de la douceur, y compris dans le sud.
Non.
Et ça va durer jusqu'au week-end inclus.
Il va faire beau le week-end prochain ?
Mais oui, c'est ce que je viens de dire.
20 degrés ?
Il fera 18 à 20 degrés, exactement.
Magnifique. Ah là, il y a débat alors. Est-ce qu'on doit rester à Paris ou pas ?
Faire...
Ah non, mais pour partir.
Gros débat. Merci Louis.
Merci.